Et ce soir, nous vous parlons de pédagogie de la résonance. Aujourd'hui, nous vous proposons un grand entretien avec Hartmut Rosa. Célèbre sociologue et philosophe allemand, il a publié des ouvrages sur la manière dont l'accélération contemporaine du temps nous aliène, sur notre rapport à la nature, à la musique et sur la résonance donc. Qu'est-ce que la résonance ? Nous allons bien sûr en parler ce soir, mais je peux commencer par vous dire qu'il s'agit d'une manière pleine, intéressante, d'être présente au monde, avec le sentiment de ressentir, de comprendre ce qui nous entoure et de pouvoir y participer. Le dernier ouvrage de Hartmut Rosa explore donc la pédagogie de la résonance. Interrogé par le spécialiste de l'éducation Wolfgang Anders, le penseur y déploie une théorie de l'éducation guidée par une éthique de la relation pédagogique, une haute idée de ce que peut être le rapport au savoir et une conscience de l'intérêt d'apprendre ensemble. Plus prosaïquement, et cette image nous évoquera à tous quelque chose, ce dont Hartmut Rosa nous parle, c'est de ces moments où les yeux des enfants s'illuminent. La Fondation Robert de Sorbonne a soutenu la traduction de Pédagogie de la résonance, un ouvrage paru aux éditions Le Pommier en octobre 2022. Et c'est dans les locaux de la Fondation que j'ai pu rencontrer Hartmut Rosa le 10 décembre dernier. Cet entretien sera traduit par Marguerite Capel. Un grand merci à elle, comme à Avril Ventura pour la préparation de l'émission et à Camille Mati qui la réalise à la prise de son. C'est Jean Frédérics. Alors pour commencer, qu'est-ce que ça peut être la résonance dans une classe, dans un groupe qui apprend ?
Bien souvent, on est confronté à des jeunes gens complètement désintéressés. Donc on voit que leur regard est vide, leurs yeux sont fermés ou sans doute ils sont de toute façon en train de jouer avec leur smartphone. Il y a parfois même une certaine hostilité, mais la plupart du temps, c'est de l'indifférence, de temps à autre, de l'agressivité. Mais il y a aussi des moments où on voit vraiment un changement dans la salle de classe. D'un seul coup, les yeux s'éclairent et ils vous regardent complètement différemment. Les yeux ne sont plus vides, ils sont intéressés. Ils sont ouverts et c'est quelque chose de très collectif souvent. D'un seul coup, il y a une atmosphère dans la salle de classe, on a l'impression de quelque chose où on touche à ce qui est sérieux. Quelque chose est en jeu. Quelque chose qui est en train d'être dit ou qu'on est en train d'expérimenter nous parle. Et on voit vraiment ce changement, pas seulement dans les regards qui s'allument et dans les postures, aussi dans les attitudes des corps. Il y a tout ça qui change, c'est une forme de réponse, c'est ça la résonance, c'est écouter, être touché, être affecté par les autres et répondre à ce qui vous touche, à ce qui vous affecte. Et je crois que tous les enseignants le savent, qu'il y a des moments dans la classe où cette résonance existe. Et très souvent, ça commence par l'enseignant qui dit quelque chose et les étudiants réalisent que c'est important pour lui ou pour elle. L'enseignant ou l'enseignante est touché par ce qu'il est en train de dire. Et c'est souvent ça le point de départ d'un moment de résonance qui a des capacités de transformation. Et après ça, l'atmosphère de la classe sera différente.
Hartmut Rosa, est-ce que quand je lis, quand j'écoute un bon podcast et que je me mets à réfléchir à des concepts, ou quand je regarde la lumière scintiller sur la scène en revenant de Radio France à vélo, c'est la résonance, c'est ça qui m'arrive.
La résonance, en fait, ce n'est pas un état du soi, ce n'est pas un état émotionnel, c'est une forme de relation. C'est quelque chose entre nous et le monde. C'est une sorte de connexion. On peut être en résonance avec les autres, par exemple, quand on se connecte vraiment aux autres, ou on peut l'être aussi avec des choses, ou même avec soi-même. La résonance est une forme de relation qui ne vise pas au contrôle ou à la domination, mais qui cherche à écouter et à répondre. Et c'est ça qui est transformateur. Donc c'est vraiment une façon très particulière d'être en lien avec le monde.
Et vous utilisez aussi une métaphore musicale pour décrire la résonance.
Quand on joue d'un instrument de musique, par exemple, quand vous faites quelques airs sur le piano, il se peut que d'autres instruments présents dans la pièce, comme le piano ou la guitare, réagissent, comme s'ils renvoyaient le son son. Ça veut dire qu'il y a une connexion entre les instruments. Pour autant, le violon a toujours un son différent de celui du piano. Donc ça veut dire que la résonance, ce n'est pas simplement l'harmonie, ce n'est pas avoir la même tonalité ou la même voix, mais c'est répondre à quelque chose, réagir à quelque chose. Quand on voit un instrument comme le violon, par exemple, il doit répondre à deux critères. Il doit être ouvert, être touché par le son, la voix du piano. Donc il faut une forme d'ouverture, d'écoute au monde. Mais il faut aussi que le corps soit fermé d'une certaine façon pour pouvoir répondre avec sa propre voix, sa propre tonalité. Si vous faites un violon en polystyrène ou en laine, par exemple, eh bien il n'aura pas le même son. Il n'aura pas ce son. Et donc la résonance nécessite d'être à la fois ouvert et fermé. Il faut être ouvert pour être affecté, pour être touché par les choses, par les idées, par les gens, par la musique. Mais il faut aussi être fermé d'une certaine manière pour pouvoir y répondre.
Mais franchement, Hartmut Rosa, est-ce que ce n'est pas un peu ésotérique, ce concept de résonance dont vous nous parlez ?
C'était très important pour moi au départ. Il y a des personnes qui voient la résonance comme une forme de concept ésotérique. Je pense que c'est pour ça que les gens s'intéressent parfois aux idées ésotériques en pensant que tout ça, c'est de la résonance. Mais le concept de résonance, c'est très sociologique, c'est très scientifique. C'est une forme de relation qui peut expliquer des expériences spirituelles et des aspirations spirituelles. Mais ce n'est pas un concept spirituel.
Comment la notion de résonance peut-elle se relier à un champ disciplinaire en particulier, la sociologie, la psychologie, la philosophie ou les trois ?
Oui, d'une certaine manière, je dirais vraiment que la résonance se situe à la croisée de différentes disciplines. Elle a très clairement des conséquences psychologiques, mais comme je l'ai dit, ce n'est pas un état émotionnel. Ce n'est pas juste quelque chose à propos de soi, à propos de moi, mon rapport avec le monde, ou moi et les autres. Et donc, elle est aussi politique, parce que la façon dont on interagit avec les autres, dont on se lie aux autres, dont on entre en contact, dépend aussi d'un cadre institutionnel dans lequel on agit. Et donc, c'est vraiment aussi politique et sociologique. C'est une relation, ce n'est pas que quelque chose d'individuel. Mais bien sûr, c'est aussi un concept philosophique. En fait, je cherchais le contraire de l'aliénation, puisque j'avais écrit un livre, publié également en français, Aliénation et accélération, et je me suis rendu compte que c'était un gros sujet, cette idée d'avoir une forme d'aliénation vis-à-vis du monde, qui signifie qu'on n'a pas de contact avec les autres autour de nous, avec l'espace dans lequel on vit, qu'il y a un manque de véritable appropriation du monde. Et je me suis demandé, mais qu'est-ce qui serait l'opposé de l'aliénation ? Qu'est-ce que serait une forme d'être au monde qui soit l'inverse de l'aliénation ? Et c'est là où j'ai développé le concept de résonance. Quand je ne suis pas aliéné, je résonne avec les gens. Mais c'est important aussi pour moi de préciser que c'est un concept pédagogique. Parce que ce qu'on appelle le Bildung en allemand, l'éducation, c'est vraiment l'idée pour les jeunes, et aussi pour les plus âgés, mais souvent ce sont des étudiants, de les mettre dans une position où ils peuvent ouvrir leurs axes de résonance au monde politique, au monde de l'histoire, au monde de la biologie ou de la physique, mais aussi au monde de la musique, au monde de la religion. Et dans chaque cas, l'objectif de l'éducation, c'est d'ouvrir des connexions entre les étudiants et la sphère, par exemple, de la musique ou de n'importe quel autre sujet. Donc ce qui se passe, c'est une transformation de l'étudiant par cette ouverture d'axes de résonance entre lui ou elle et le monde.
Importante précision, effectivement, Hartmut Rosa. En quoi les enfants sont-ils plus résonnants et pourquoi ?
Oui, je crois que c'est assez évident dans la psychologie du développement de l'enfant qui nous montre très clairement que les jeunes enfants, pratiquement à la minute où ils naissent, cherchent, désirent une résonance avec le monde. Que ce soit par le fait qu'on les tienne, qu'on les serre dans les bras, qu'on les caresse ou qu'on les nourrisse, ils comprennent que c'est une résonance, une connexion entre eux et le monde. Ils regardent avec leurs yeux, avec leurs gestes, avec leur voix, ils cherchent à établir cette connexion. C'est presque un instinct de chercher à établir cette connexion résonante qui permet d'écouter et de répondre. Ils écoutent avec tout leur corps, en quelque sorte. Et puis, ils se rendent compte que les yeux de la mère ou les yeux du père les regardent. Et c'est par ce processus de résonance de voir le regard des autres et de comprendre « Oh, ils sont en train d'interagir avec moi, ils s'adressent à moi, ils me parlent, ils m'appellent, en quelque sorte. » Et c'est par ce processus qu'on développe un sentiment d'être soi, d'identité, et qu'on devient un sujet. Donc ce qui fait de nous des êtres humains, ce n'est pas forcément la langue ou le fait d'être raisonnable, au sens d'avoir une langue raisonnable. On développe un langage raisonnable beaucoup plus tôt quand on est bébé par notre façon de vouloir interagir avec les choses. Et c'est quelque chose qu'on voit quand les adultes essaient d'interagir avec les enfants. Quand un petit enfant vous sourit, c'est très difficile de ne pas lui rendre ce sourire. Et ça fait partie de ces premiers instants de résonance. Quand l'adulte regarde le bébé dans un berceau, par exemple, le bébé commence par agiter ses petits bras, ses petites jambes, et avec ses yeux, avec tout ce qu'il a, il essaie d'établir le contact. Et en général, on essaie normalement de répondre et d'établir ce contact. Si on ne le fait pas, c'est quasiment comme si on agressait cet enfant au berceau. L'enfant va complètement perdre confiance et va se mettre à pleurer, voire à paniquer.
Et cette idée, cette manière de bien apprendre, est-ce qu'on doit l'expliquer aux enfants ?
Pour moi, c'est un point très important. Je pense que ce n'est pas nécessaire d'enseigner la résonance parce que, comme je l'ai dit, en tant qu'être humain, nous sommes résonnants, nous sommes des êtres résonnants, les enfants le sont. Le monde entier est animé et pour les enfants, il y a cette envie d'entrer en contact, y compris avec une chaise, une table, un lit. Le problème, c'est qu'on peut désapprendre, on peut oublier cette capacité. Et beaucoup d'enfants, je crois, sont en train d'oublier ou ont déjà oublié, ont déjà désappris. Je pense qu'il y a plusieurs manières de perdre cette capacité à la résonance. La première, c'est quand on sape le sentiment d'identité, de la personnalité de quelqu'un parce qu'on a besoin de croire dans notre capacité à interagir avec les autres d'une manière qui soit transformatrice et ouverte. Il y a deux manières de faire l'expérience de cette efficacité personnelle du soi, c'est celle de vouloir dominer les choses, de vouloir obtenir les choses. Les enfants apprennent très vite ça. Mais ce n'est pas de la résonance. La résonance, c'est comprendre qu'on peut, par exemple, amener cette autre chose ou cette autre personne à vous parler, à s'adresser à vous. Et c'est l'écouter, y réagir et transformer les choses. Donc si on sape cette confiance dans l'efficacité personnelle d'un enfant, il ne développera plus cette capacité. En apprenant, par exemple, un instrument ou une langue, on peut lancer ce processus de formation. L'autre manière de perdre cette capacité de résonance, c'est par exemple quand il y a un traumatisme, parce que ça signifie que ça rend l'expérience d'être touché, ça en fait une expérience d'être blessé. En fait, la résonance nécessite d'accepter d'être touché par quelque chose, par quelqu'un d'autre qu'on ne peut pas contrôler, qu'on ne connaît pas entièrement. Donc il y a toujours un risque dans la résonance. On se rend vulnérable en s'ouvrant de cette façon. Et bien sûr, si l'enfant a vécu une façon d'être touché ou une façon de s'ouvrir qui signifie être blessé, il ne s'ouvrira plus, il ne permettra plus ça. Et donc l'enseignant doit à ce moment-là rouvrir les axes de résonance. Mais l'autre objectif de l'éducation, c'est que les enfants transforment l'expérience qu'ils peuvent avoir à l'école, les différentes matières qu'ils vont étudier, la biologie ou la physique, et qu'ils comprennent que ces matières peuvent être aussi des axes de résonance. Donc, je pense que ce qui est très important, c'est de ne pas seulement transmettre des compétences, d'apprendre des compétences, mais de réaliser que la politique, par exemple, c'est quelque chose d'important pour nous. C'est un axe de résonance. C'est un champ dans lequel on ressent cette efficacité personnelle. Et c'est aussi quelque chose qui nous touche personnellement. Par exemple, moi, j'aime regarder les étoiles. Et je pense que l'objectif de la physique à l'école, ça doit être d'ouvrir ces axes de résonance. D'enseigner aux enfants, de montrer aux enfants que les étoiles leur parlent.
Et
nous sommes faits de matériaux qui viennent des étoiles. Nos corps mêmes sont le résultat de l'explosion d'étoiles. Donc c'est à la fois de la biologie et de l'histoire, c'est pareil. Avec ces matières-là, ce ne sont pas des matières qui sont mortes. L'histoire court jusqu'à nous, depuis le passé jusqu'à l'avenir. Donc l'éducation, c'est rouvrir ces axes de résonance.
Est-ce que c'est quelque chose qui doit être collectif ?
La résonance est une question de relations avant tout. Ça peut être individuel, par exemple une résonance entre vous et un livre qui vous parle. Parfois on a les larmes aux yeux dans ce genre de moment où on a la chair de poule, où on a un frisson dans le dos. Donc il y a des expériences de résonance très puissantes qui peuvent être personnelles, individuelles, mais très souvent elles sont collectives. Par exemple avec la musique, c'est très intéressant. J'ai mené une étude sur les musiciens et aussi sur leur public. Et dans la plupart des concerts, qu'il s'agisse de classique ou de rock ou de hip-hop, peu importe, ils sont souvent d'accord pour dire qu'il y a eu un moment, une chanson particulière où quelque chose s'est passé. Donc c'est une expérience collective qui crée un lien, une solidarité. C'est comme une résonance qui circule dans une collectivité.
Hartmut Rosa, est-ce qu'il faut connaître cette expérience pour cultiver une capacité à raisonner ? Comment cultiver tout ça dans des situations d'apprentissage ?
Je pense vraiment que c'est ça le grand défi pour les écoles depuis la maternelle, c'est de permettre aux enfants de faire l'expérience de la résonance suivant quatre axes. Je parle de quatre axes de résonance qui sont tous importants pour les jeunes et pour les enfants, selon moi. Le premier est social. Il ne faut pas frapper les autres enfants, il ne faut pas leur crier dessus. Et il faut être capable d'écouter et de réagir à ce qu'ils disent d'une manière qui soit ouverte en essayant de comprendre et en répondant avec sa propre voix, sa propre tonalité, et la transformation passe par le dialogue. Je crois que c'est très important parce que c'est vraiment au cœur de la démocratie, c'est le fondamental de la démocratie, qui ne fonctionne que par la résonance et pas par le conflit ou la colère. Il y a un deuxième axe de résonance que j'appelle l'axe matériel, que les enfants vivent par la manière dont ils interagissent avec les objets. Ça peut être, par exemple, en biologie, des plantes ou des animaux. En physique, ça va être tout ce qu'on fait en physique, y compris ce qu'on aborde, y compris les étoiles. Ça peut être aussi par le sport ou par les instruments de musique. Nous sommes des êtres physiques. Nous avons une résonance avec un métronome, par exemple. Le troisième axe, je l'appelle l'axe existentialiste ou vertical. C'est notre connexion avec l'univers, avec la nature, avec la vie, comme une réalité globale avec laquelle on peut avoir une forme de résonance. C'est là où on touche à la religion, quelque chose qui nous appelle et qui nous accueille dans ce monde. Et je crois que c'est aussi une expérience nécessaire et qui ne passe pas forcément que par la religion. Ça peut aussi justement être vécu par la musique, par l'art, par la nature. Parfois, ça peut être une expérience qu'on vit quand on est au bord de l'océan ou dans les montagnes et on ressent une connexion entre son âme, quelque part, et l'univers. Et le dernier axe de résonance, c'est l'auto-résonance. C'est la résonance avec soi-même, avec son corps, avec sa psyché, avec ses rêves. Et ça signifie ne pas avoir un contrôle total, justement, de son corps ou de sa mémoire. Et on a envie de s'écouter et d'y réagir. Et ces quatre axes de résonance, c'est ça l'objectif de l'éducation. Mais c'est très important de voir que la résonance, ce n'est pas une compétence, ce n'est pas quelque chose qu'on sait faire. C'est pour ça que j'ai écrit ce petit livre qui s'appelle « Rendre le monde indisponible », qui parle de l'indisponibilité. Cette idée qu'on ne peut pas fabriquer la résonance, ce n'est pas quelque chose qu'on peut produire de manière artificielle.
Alors vous nous présentez la résonance comme quelque chose de désirable et en même temps, on ne peut pas vraiment donner de méthode pour l'atteindre.
That's the problem with resonance, right?
C'est ça le problème avec la résonance. C'est impossible d'écrire un livre, 5 étapes pour créer une relation résonante ou avoir un enfant résonnant. La résonance est quelque chose qui nous arrive. Ce qu'on peut créer, c'est nous mettre en disposition pour que ça se produise. C'est une forme de capacité de se laisser toucher, d'être capable de réagir.
Alors, Hartmut Rosa, est-ce que tout ce que vous venez de nous expliquer, tout ce qui pourrait améliorer la vie dans les écoles, les universités, il faudrait le mettre au programme. Mais si on le faisait, est-ce que ce ne serait pas une charge supplémentaire pour les enseignants ?
Je pense que ce serait une terrible erreur que de simplement mettre la résonance au programme ou de dire, voilà, maintenant, non seulement il faut être conscient et aussi respecter l'environnement et être créatif et durable, et en plus, il faut aussi être résonant. Ce serait vraiment une très mauvaise manière d'envisager la résonance. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que ce n'est pas quelque chose qu'on peut produire, qu'on peut faire advenir. Je pense que pour les enseignants comme pour les parents, le mieux qu'on peut faire, c'est essayer d'être soi-même résonant. Quand on fait cette expérience de la résonance, quand on a cette résonance avec soi-même, les étudiants, les enfants le ressentent. Et ça les inspire. La meilleure manière de faire de l'éducation, l'éducation, comme je l'ai dit, c'est ouvrir ces axes de résonance. Par exemple, quand on parle de poésie ou dans un cours de littérature, la meilleure manière d'inciter les enfants à ouvrir cet axe de résonance, c'est si l'enseignant lui-même ou elle-même est en résonance avec le roman ou avec le poème qui est sur la table. Ce n'est pas un devoir de plus ou une difficulté, un défi de plus à relever. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut mesurer. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut noter. On ne peut pas dire qui est meilleur en résonance. C'est même contre l'idée même de la résonance.
Et Hartmut Rosa, il faut aussi parler de ce qui nous prive de cette relation au savoir. Dans le livre, vous évoquez le manque de temps, les évaluations, les notes.
The resonance killer number one, right?
Ce qu'il y a vraiment de pire pour la résonance, pour moi, c'est vraiment le manque de temps. Quand vous n'avez pas assez de temps, par exemple, vous devez attraper un avion, alors vous fermez votre esprit, vous fermez votre corps à tout ce qui peut vous interpeller. Quand j'essaie d'avoir mon avion, je ne vais pas écouter l'enfant qui s'adresse à moi, je ne vais pas écouter le téléphone qui sonne ou la musique qui vient d'une pièce ou le magnifique coucher de soleil. Je suis obligée de fermer complètement mon esprit pour arriver à temps et avoir mon avion. Et dans notre société, c'est vraiment le premier critère. Dans notre esprit, de manière métaphorique, nous sommes toujours en train de courir derrière un avion. Nous sommes toujours à court de temps. C'est une lutte quotidienne et permanente. Et cet état d'esprit qui nous pousse à être en permanence rapide et efficace, ça tue en nous toute capacité à la résonance. Et cette logique aussi que j'appelle l'optimisation des paramètres. C'est comme ça qu'on a tendance à mener nos existences, en particulier à l'école. C'est partout, mais ça existe aussi à l'école. C'est qu'on définit les paramètres de notre vie et on essaie systématiquement d'améliorer ces paramètres. Par exemple, on mesure le nombre de pas qu'on fait chaque jour. On mesure aussi notre poids, on mesure la capacité, les différentes capacités de notre corps, sa taille, on mesure le nombre d'amis qu'on a sur Facebook ou sur Instagram, le nombre de likes ou le nombre de followers, d'abonnés qu'on peut avoir. Tout ça, ce sont des paramètres sur lesquels on peut ensuite travailler. Je veux améliorer telle compétence ou mon réseau social ou mon corps ou mon apparence. C'est une forme d'agression, finalement, dans cet état d'esprit. Il s'agit en permanence d'améliorer, d'optimiser. Ça ne nous aide pas, en fait, à être en résonance, à nous ouvrir et à être prêt pour une transformation qu'on ne contrôlerait pas totalement. Donc ce n'est pas seulement le manque de temps, c'est aussi une forme de concurrence, de compétition qui nuit aussi à la résonance. Parce que si je suis en compétition avec vous pour aller plus vite que vous, et je vais devoir jouer des coudes en fait. Et donc je ne vais pas être en résonance avec vous, je ne vais pas me laisser affecter, me laisser transformer. Donc tout ça, ça nuit à la résonance et de façon générale les situations aussi de peur. Parce que pour être en résonance, il faut se rendre vulnérable. On s'ouvre à quelque chose qui vous touche, qui vous affecte et qui échappe à votre contrôle. Et ça nécessite de la confiance dans la vie et dans sa propre capacité à y répondre. Et les réformes néolibérales de ces dernières décennies, je l'affirme, ont vraiment créé de façon systématique un contexte de compétition, de rareté du temps, de manque de temps et de peur. Et c'est pour ça que nous sommes dans une crise de la résonance.
Dans cet épisode d'Être et Savoir, nous vous proposons un grand entretien avec Hartmut Rosa qui publie « Pédagogie de la résonance » aux éditions du Pommier. Il nous parle du sens de cette notion, la résonance, et d'une manière de repenser les relations éducatives.
France Culture, Être et Savoir, Louise Touret.
Donc, Hartmut Rosa, si on vous suit bien, il faudrait arrêter de compter, comparer, orienter. Mais en fait, c'est quand même le travail de l'école telle qu'on la conçoit aujourd'hui dans la plupart des pays du monde.
Mais
je pense que vous serez d'accord pour dire que ce n'est pas ça l'objectif de l'éducation scolaire. L'objectif de l'éducation, de la formation, ce n'est pas de sélectionner ou de compter, ce n'est même pas d'optimiser les choses. C'est pour ça que c'est important de revenir à ce qu'on voulait faire au départ. Avec l'éducation, c'est un processus au travers duquel les jeunes développent leur sensation d'être au monde, leur personnalité, qui ils sont dans le monde. Et ça passe par une forme de relation avec le monde. C'est pour ça que j'insiste sur le véritable objectif de l'école, qui est d'ouvrir ces axes de résonance. Le problème, c'est que c'est quelque chose qui n'est pas mesurable, qu'on ne peut pas noter. Et c'est pour ça que les politiques se sont tournées vers une logique des chiffres, de la quantification. C'est comme ça qu'on peut faire de la politique éducative et financer tel programme ou telle école ou telle façon de faire. Et ensuite, mesurer les résultats en termes de compétences. Mais regardez la société dans laquelle nous vivons. Je crois que la situation est assez désespérée. Nous avons des crises à tous les niveaux de l'existence, une crise écologique. Au niveau macro, on est en train de détruire la nature, on va être détruits nous-mêmes par la nature si on continue de cette façon-là. Il y a une crise plus de la mésosphère au niveau intermédiaire de la sphère sociale. On sent l'augmentation de l'hostilité dans notre société. Entre la gauche politique ou la droite politique, tout le monde se déteste. On voit ça aux États-Unis, que ce soit les partisans de Trump qui sont prêts à tuer les démocrates, mais les démocrates aussi qui détestent tout autant dans les supporters de Trump. En Grande-Bretagne, c'était entre les partisans du Brexit et ceux qui étaient contre, ils se détestaient. En Allemagne, ça peut être entre les pro-vaccins qui détestent les gens qui sont contre le vaccin, mais ceux qui sont contre le vaccin pensent aussi que les idiots, ce sont ceux qui sont pour. Donc il y a de l'agression, de l'agressivité à tous les niveaux dans la société. On voit même aujourd'hui le retour de la guerre. Et quand on regarde les études sur la santé mentale, en particulier avec les jeunes, avec les étudiants, elles sont extrêmement alarmantes à travers le monde. En France, aux États-Unis, je viens de voir les chiffres du Danemark, c'est la même chose en Allemagne. Les jeunes sont proches du burn-out, en réalité. Et ils n'ont pas énormément de choses à faire, et ils sont près du burn-out. C'est ça qui est très intéressant. Il y a des éléments empiriques qui nous montrent que nous sommes dans une situation d'agression de la nature, de nous-mêmes et entre nous, et aussi d'agression de nous-mêmes. Les jeunes gens n'ont pas confiance dans leurs capacités. Ils ont envie d'être différent, d'avoir un autre corps, un autre esprit, une autre psyché. Donc, s'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre processus de formation, et je suis tout à fait d'accord avec vous, on devrait arrêter de compter tout le temps. Parce que toute cette logique de comparaison, de mesure, elle nous fait oublier le vrai sujet de l'éducation. Et je pense que ce serait une très bonne idée d'arrêter de compter et de comparer.
Dans votre ouvrage « Pédagogie de la résonance », Hartmut Rosa, vous dites qu'être considéré et finir par se considérer comme mauvais à l'école ou dans telle ou telle discipline coupe de la capacité à trouver de l'intérêt à apprendre.
Oui, je crois que c'est un des grands problèmes de notre société. La manière dont on tue la capacité des gens à la résonance nuit à leur efficacité personnelle et leur confiance dans leur propre capacité à faire réagir le monde. Dans notre système scolaire, quand on sépare les étudiants et que les meilleurs, les gagnants, vont au lycée pendant que les perdants de l'histoire vont dans d'autres écoles, on fait quelque chose qui est extrêmement cruel et ce n'est pas qu'une question d'argent. C'est une question de confiance des personnes à entrer dans cette relation de résonance. Donc les perdants de notre système éducatif, très souvent, ont le sentiment que la politique n'est pas faite pour eux, que l'histoire n'est pas faite pour eux, que la littérature n'est pas faite pour eux, la philosophie non plus ne leur parle pas. Mais c'est aussi parce qu'ils ne sont pas capables de faire en sorte que tous ces sujets leur parlent, d'obtenir une réponse. Donc on nuit à l'auto-efficacité des personnes et on ferme ces axes de résonance. Et c'est quelque chose qu'on peut aussi, un enseignement qu'on peut tirer de Pierre Bourdieu, le grand sociologue français, bien sûr, qui a vraiment insisté pour montrer que le système éducatif, ce qu'il fait, c'est qu'il change l'habitus des gens ou qu'il crée l'habitus des gens, leur disposition, leur façon d'interagir avec le monde, d'être au monde. Et il faut combiner cette idée avec celle de la résonance, selon moi. Parce que ce qu'on voit, c'est que pour ceux qui sont les gagnants, qui sont la classe dominante, le monde leur parle. Ils s'y intéressent, ils sont actifs dans la politique, dans la sphère religieuse, ils aiment aller dans la nature, ils chantent, ils font de la musique, etc. Ce sont nos intellectuels. Et ceux qui, par contre, sont les perdants, tous ces exercices-là sont fermés. Ils ne s'intéresseront pas à la politique, ils n'iront pas se promener dans la nature, ils n'iront pas jouer d'un instrument de musique. Donc il ne s'agit pas seulement de détruire des individus, c'est aussi une manière de perpétuer des inégalités.
Sincèrement, je pense qu'on ne peut pas parler de l'école sans évoquer ses conditions matérielles. Le nombre d'élèves par classe, l'état des bâtiments, les problèmes de chauffage, en ce moment même, dans les écoles qui compliquent en fait tout.
Je crois que c'est très important et c'est un point important dans mon approche de la sociologie parce que je crois qu'on fait une erreur quand on croit que la vie est meilleure en fonction de la quantité de ressources matérielles ou d'options qu'on a. En sociologie, il y a une tendance à penser que ceux qui ont plus d'argent ont une meilleure existence, que ceux qui ont de plus grands appartements ont une meilleure vie. Que ceux qui ont eu plus d'éducation au sens formel du terme ont une meilleure vie, que ceux qui ont une meilleure santé ont forcément une meilleure vie. Pour moi, tout ça, ce sont des ressources. Et augmenter simplement la quantité de ressources, les accumuler, ça ne signifie pas forcément une vie meilleure. On peut aussi se tuer à être très riche. Ce qui est important, c'est que bien sûr, je ne dis pas non plus le contraire. Les ressources matérielles sont importantes. C'est important d'avoir assez. Si vous avez faim, c'est très peu probable que vous arriviez à entrer en résonance avec quoi que ce soit. Si vous avez mal ou que vous avez froid, le froid, littéralement, on le voit dans l'attitude du corps. Quand on a froid, on se referme. On se referme au toucher, on ne peut plus s'ouvrir à la résonance. Et c'est très clair que quand on vit dans des contextes qui vous donnent l'impression que le monde est un environnement hostile, qui n'est pas fait pour vous, ça peut être d'un point de vue physique, parce que, par exemple, concret, parce que l'école est froide ou que les murs sont en train de s'écrouler. Quand on associe un environnement qui est hostile et un environnement social aussi qui est hostile, ça fait de nos écoles des zones d'aliénation. Et c'est pour ça que beaucoup de jeunes gens vivent ça dans les banlieues et ailleurs. L'école est un lieu d'aliénation où il faut se refermer, où il faut éviter le contact. Et la vie va commencer ailleurs, après l'école. La vie commence après l'école ou en dehors de l'école. Et bien sûr, ça, c'est terrible. Donc, il est absolument vital que l'on ait suffisamment de nourriture, l'abri, les vêtements dont on a besoin pour vivre sa vie. Il faut une forme de sécurité, pas forcément toujours plus, mais une forme de sécurité et un environnement qui permet la résonance. Et je suis d'accord, aujourd'hui, il y a beaucoup d'écoles et beaucoup d'autres environnements qui créent des zones d'aliénation.
Dans cet entretien, je voulais aborder aussi un sujet plus léger, l'humour. Est-ce que les blagues sont une source de complicité et donc de résonance dans l'enseignement ?
L'humour, c'est quelque chose auquel je n'avais pas réfléchi quand j'ai écrit mon gros livre sur la résonance. Mais j'ai co-écrit le nouveau livre sur la pédagogie de la résonance avec Wolfgang Indres, qui est pédagogue, qui est allemand. Et il m'a dit, mais tu ne crois pas que l'humour, c'est quelque chose de très important. Et j'ai commencé à y réfléchir. Et je pense qu'il a tout à fait raison. Parce que l'humour, c'est quelque chose qui nous donne une sensation de résonance à nous et aux autres. On peut sourire ensemble de quelque chose, on peut rire ensemble de quelque chose, c'est quelque chose qui nous connecte, qui nous met en lien. Et ça nous permet aussi d'être en désaccord. Si vous avez par exemple un débat politique et qu'on a, vous et moi, une opinion totalement différente, garder le sens de l'humour va permettre une forme de résonance presque physique et psychologique aussi, tout en étant en désaccord. C'est la même chose entre un enseignant et un étudiant. L'enseignant peut dire à un étudiant, bah là tu te trompes d'une façon où l'étudiant saura que ce n'est pas une manière de l'humilier ou de le mépriser. Il peut y avoir une résonance dans cet échange-là grâce à l'humour. Donc je crois qu'on voit vraiment la différence et qu'il faudrait faire des études empiriques dans des salles de classe. Une classe qui est pleine d'humour permet aux étudiants d'être ouverts et de ressentir ce lien social. Et c'est très très différent du fait de rire de quelqu'un. Quand vous utilisez l'ironie ou le cynisme ou que vous riez d'un élève ou d'un enseignant, ça crée une atmosphère d'hostilité et de peur. Donc l'humour, c'est comme un liquide qui permet, un fluide qui permet la résonance.
En France, on donne souvent à l'école beaucoup de pouvoir. Et pour la résonance, finalement, est-ce que c'est à l'école de guider la société pour un monde plus résonant, ou est-ce que ça doit venir de la société, une société plus résonante qui induirait des relations aussi d'apprentissage plus résonante.
Je
pense que ça a toujours été un problème. Tous les problèmes de la société se condensent au niveau de l'école et comptent sur l'école pour rectifier tout ce qui ne va pas dans la société. Et bien sûr, c'est impossible. Donc il y a un problème avec la quantité d'attentes qu'on a vis-à-vis de l'école, trop d'attentes. Mais je crois que le principal problème de la société, c'est qu'on perd notre compréhension de la résonance dans toutes les directions, dans notre manière d'interagir les uns avec les autres, sur le plan politique, avec le retour de la guerre en Europe. Il y a une forme d'agression, évidemment, mutuelle. Et nous sommes aussi dans l'agression avec la nature, dans l'agression contre nous-mêmes. Et nous perdons cette résonance existentielle avec la vie elle-même. Et les écoles sont incapables de résoudre tous les problèmes de façon matérielle ou réelle. Mais elles peuvent être sans doute la source du changement. Cette idée de résonance, elles ne peuvent pas résoudre tous les problèmes matériels, économiques ou environnementaux, bien sûr, les écoles. Mais elles peuvent commencer à faire une différence en prenant conscience de cette question de la résonance. Et à transformer ces zones d'aliénation en lieux de résonance. Et je pense que ça fait une différence pour une société, au sens large, dans notre manière de nous voir les uns les autres et dans notre manière aussi de voir les étrangers et les problèmes qui peuvent être identifiés de l'extérieur. Donc je pense que c'est possible de commencer de faire une petite différence et je crois que n'importe quel enseignant peut faire une différence, même minuscule, dans sa manière d'interagir avec les collègues, avec les enfants, avec les parents aussi, ce qui est extrêmement difficile parce que tous ces différents acteurs ont des attentes et des exigences qui ne sont pas résonantes. On ne peut pas changer le monde, évidemment, en une fois et d'un seul endroit possible, mais il y a cette chanson que j'adore de Leonard Cohen, Anthem, dans laquelle il dit qu'il y a une faille dans chaque chose et que c'est comme ça que la lumière pénètre à l'intérieur. Et dans toutes les interviews, par exemple, que je fais ou toutes les conférences que je donne ou à chaque fois que je parle à un étudiant, même quand je traverse une ville, je vois des petites fenêtres d'opportunité qui donnent la possibilité d'ouvrir des axes de résonance. Et c'est comme ça qu'on fera une différence dans le monde de demain.
The birds they sing at the break of day. Start again, I heard them say. Don't dwell on what has passed away or what is yet to be. Yeah, the war, they will be fought again. The holy dove, she will be cut again. Bought and sold and bought again. The dove is never free. But still can ring. Forget your perfect offering. There is a crack in everything. That's how the light gets in. Were signs, the signs were sent. The birth betrayed, the marriage spent. Yeah, the widowhood of every government. Signs were all to see. Crowd. killers in high places say their prayers out loud. But they've summoned up a thundercloud. They're gonna hear from me. Ring the bell that still could ring. That's how the light gets in. You can add up the parts, you won't have the sum. You can strike up the march, there is no drum. Every heart to love will come, but like a refugee. Ring the bell that still can ring. Forget your perfect offering.
Anthem, Leonard Cohen, c'est le deuxième choix musical du philosophe et sociologue Hartmut Rosa avec qui je m'entretiens dans cet épisode d'Être et Savoir sur la pédagogie de la résonance. C'est le titre de son dernier ouvrage. Et donc, une question toute simple, comment faire pour mettre plus de résonance dans les relations avec les enfants et les adolescents quand on cherche à leur apprendre quelque chose?
C'est une question très difficile parce qu'on l'a dit, il ne peut pas y avoir de programme, sept étapes pour avoir une classe résonante. Donc si on veut travailler sur la résonance, c'est plutôt changer le point d'attention, changer l'attitude. C'est une manière peut-être de troquer les compétences ou les chiffres et la concurrence pour une transformation des relations, se concentrer davantage sur les relations, notre manière d'interagir avec nous-mêmes, avec les matières que nous enseignons. Donc par exemple, ce que vous pouvez faire, c'est faire en sorte que ce que la matière que vous enseignez dans la salle de classe, elle vous parle à vous et elle parle aux étudiants. Il y a des études intéressantes qui semblent confirmer que parfois c'est même une forme de résistance aux pressions qu'on subit. Je pense que tous les enseignants ont mesuré toutes ces pressions si nombreuses, remplir des rapports, satisfaire à tel ou tel critère. Les nouvelles formes de politique éducative sont énormément fondées sur la preuve. Il faut en permanence fournir des chiffres et des rapports. Il y a une étude en Allemagne qui montre que ce qui est intéressant, c'est que c'est exactement le contraire de la logique qui se passe, puisque les gens même parfois trichent sur les chiffres et c'est comme ça qu'ils créent des espaces de résonance entre enseignants, au sein de l'école, avec la direction parfois de l'école, dans leur manière de résister à cette logique des nombres. Donc ce qui est important, ce n'est pas apprendre une méthodologie ou sept étapes pour atteindre la résonance, c'est changer ce sur quoi on se concentre, passer de cette logique de mesure et de compétition à cette logique de relation.
Alors il y a un autre point que je voulais vraiment aborder ce soir, ce sont ces tâches annexes et chronophages qui empêchent parfois de penser à l'enseignement tel qu'il devrait être, et surtout si on vous écoute, Hartmut Rosa, ses tâches, c'est faire remonter des données à l'administration, préparer des grands dossiers pédagogiques très longs. Les enseignants en parlent souvent. Il y a même une directrice d'école, Christine Renon, qui en a parlé dans sa lettre. Avant de se suicider, elle disait « mais c'était pas mon travail de parler avec l'administration, je n'avais plus le temps de parler aux élèves ». Alors comment se concentrer sur les véritables objectifs de l'éducation dans un monde tel que le nôtre ?
Yeah, I think this is really true. I mean, when you look at the statistics,
je crois que c'est tout à fait vrai. Quand on regarde les statistiques, on voit que le taux de burn-out est particulièrement élevé chez les enseignants et aussi chez toutes les personnes qui sont dans le soin, dans les hôpitaux, etc. Et je pense que je peux l'expliquer. Quand on est enseignant dans une salle de classe, on est toujours soumis à une double pression. D'un côté, il y a la pression des rapports, des autorités, de l'administration, parfois même des parents. Et de l'autre, on voit les regards des enfants et leurs visages. Et on sent que ce qu'on a vraiment besoin de faire et ce qu'on veut faire, c'est ouvrir ces axes de résonance. Et il y a toujours une pression croisée entre cette logique d'efficacité, de chiffres, et cette logique de résonance. Et cette pression qui se croise peut rendre les gens complètement malades et même désespérés, et même tout à fait suicidaires. C'est pour ça que j'ai écrit le livre, qu'on a écrit le livre ensemble. Je pense que ça aide de savoir que ce n'est pas de votre faute si vous êtes dans cette situation-là et que vous n'y êtes pas seul. C'est très important de commencer à aborder ça dans les écoles, avec les autres enseignants, parler de cette situation. Même les enseignants se comparent les uns avec les autres et sont comparés entre eux par l'administration scolaire. Encore une fois, avec des notes, des notations, avec une forme de compétition des compétences. Donc c'est très important de créer une atmosphère entre les enseignants dans les écoles qui justement éduque à la véritable mission de l'école.
Nous arrivons bientôt à la fin de cet entretien, Hartmut Rosa. Je crois qu'il est important de dire un mot de la philosophie avec les enfants. Vous êtes parrain d'une chaire de l'UNESCO, pratique de la philosophie avec les enfants.
Je pense que c'est très intéressant, la philosophie avec les enfants. En fait, je dirais que les enfants sont en quelque sorte des philosophes nés, parce que les humains sont des animaux qui s'auto-interprètent. C'est quelque chose que je tiens de Charles Taylor, qui était mon enseignant. J'ai fait ma thèse sur lui, je l'admirais beaucoup. Et il dit que nous avons ce besoin d'interpréter qui nous sommes et notre place dans le monde, notre relation avec le monde. Et donc les enfants essayent d'explorer qui es-tu, qui sont les autres, quel est le sens de la vie. Et ils partent de leur propre expérience et de leur propre corps pour entamer ce processus de réflexion. Et ils sont dans une très bonne situation. Normalement, on a énormément de concepts en tant qu'adultes. On est souvent d'un esprit très fermé par ce qu'on pense déjà savoir comment fonctionne le monde. Les enfants sont souvent ceux qui remettent ça en cause. J'adore parler aux plus jeunes, et même aux lycéens, parce qu'ils n'ont pas trop de respect pour les autorités, les grands noms. Ils remettent en cause nos certitudes de tous les jours. Et c'est là que commence la philosophie. Et donc je pense que développer la capacité des enfants à entrer en résonance avec les idées, par le dialogue, c'est quelque chose de très important dans leur éducation. Mais c'est aussi très bon pour les adultes, parce que ça leur permet aussi d'être remis en cause.
Ne sommes-nous pas en train de rêver à une résonance, à un concept qui serait quand même en contradiction avec ce qui constitue un élément très important de nos existences, pas seulement celle des ados, hein, les nôtres, les pratiques numériques qui sont si chronophages?
Oui, je crois que c'est très évident que cette logique numérique a beaucoup à voir avec l'accélération. Elle a accéléré nos vies d'une manière extrême. Et on voit que beaucoup de jeunes aiment passer les messages en accéléré, par exemple, pour ne pas perdre de temps, pour réagir immédiatement. Et bien sûr, il y a un danger important parce que ça peut être l'opposé de la résonance. La résonance, ça demande du temps. Il faut du temps pour s'ouvrir à une idée, à un autre, essayer de répondre, de réagir et entrer dans ce processus de transformation qu'on ne contrôle pas pleinement. C'est ça la logique de la résonance. Et on ne peut pas faire ça en 30 secondes. Dans ces formats-là, ça ne fonctionne pas. Pourtant, les jeunes recherchent une résonance à travers TikTok ou Snapchat ou ce genre de médias, de réseaux. Quelqu'un vous appelle, vous le sentez dans votre poche et vous avez cette possibilité de réagir, de répondre, d'avoir cette sensation de votre propre efficacité dans cette réponse. Je ne veux pas dire que ces réseaux, ces médias soient notre ennemi. Tout dépend de la manière dont on les utilise dans un cadre différent. Ils peuvent être une source de résonance.
La résonance, ce n'est pas créer une harmonie un peu mystique ou du consensus. C'est quelque chose de plus subtil.
Je crois que c'est très important. Cette idée que la résonance, ce n'est pas seulement l'harmonie ou le consensus. Il peut même y avoir une forme de résistance, de contradiction et même d'affrontement. Mais c'est un affrontement dans lequel on reste ouvert à l'autre. On écoute et on réagit. Parfois, ça peut même être une dispute tout à fait hargneuse. Mais parfois, les jeunes ont besoin de temps et ils ont besoin aussi de moments où ils ont le droit de refuser la résonance. C'est très important, par exemple, à la puberté, une phase centrale de l'adolescence où on ferme certains axes de résonance qu'on avait. Par exemple, les jeunes de 14, 15 ans entrent en conflit avec leurs parents, avec leurs enseignants, parfois avec leurs camarades, parfois avec leur propre corps. Ils ont une forme d'aliénation vis-à-vis de leur propre esprit. La puberté, c'est vraiment une expérience et une phase très profonde d'aliénation où le monde se referme et on se referme soi-même. Et c'est nécessaire pour trouver sa propre fréquence, sa propre voix dans la philosophie, la politique, la musique, la littérature. Donc c'est très important de comprendre qu'il faut éviter une forme de pédagogie qui ne parlerait que d'harmonie et de bienveillance. Le conflit, l'affrontement et la contradiction et même l'opposition sont des éléments nécessaires de ce processus de résonance.
Et pour moi, Hartmut Rosa, la résonance a quelque chose à voir avec l'intensité. L'intensité, c'est vraiment quelque chose qu'on recherche toute sa vie, peut-être particulièrement à l'adolescence. Et trouver la résonance dans des expériences collectives, culturelles, intellectuelles, c'est important parce que sinon, on peut aussi aller la chercher. Et de toute façon, on en fera l'expérience aussi dans des conduites addictives, parfois violentes, qui font partie des expériences qu'on doit peut-être traverser, mais peut-être pas comme un but dans la vie. Donc, c'est aussi avoir une proposition d'intensité positive.
Yes, I think that's completely right.
Oui, je pense que c'est tout à fait juste. Il y a un livre intéressant sur l'intensité par Tristan Garcia. Je crois que c'est vrai. Les jeunes, et pas seulement les jeunes, notre monde moderne de façon générale, met l'intensité au centre, l'expérience de l'intensité. Et donc, rechercher l'intensité, c'est une manière de lutter, de s'opposer à l'indifférence du monde. Il y a deux formes d'aliénation pour moi. La première, c'est que le monde est totalement indifférent. Tout est pareil, rien ne crée d'intensité. Vous avez le sentiment que rien ne vous parle ou ne vous touche particulièrement. La deuxième forme d'aliénation, c'est la répulsion ou l'hostilité. Quand on a le sentiment que le monde est contre nous. Et bien sûr, ça peut être très intense. C'est le cas dans les contextes de guerre, qui est une expérience extrêmement intense. Mais ce n'est pas de la résonance. Parce que dans cette situation-là, on se referme et on ne veut pas être touché, être affecté. Et la façon dont on se dirige vers les autres, c'est plutôt une façon de se déchaîner pour obtenir ce qu'on veut, pour tuer parfois. Donc c'est une autre forme d'intensité. Quand on parle de drogue, l'intensité que peut créer et la résonance que peut créer une drogue, ça existe peut-être d'une certaine façon, mais par un autre côté, ça nuit à l'efficacité personnelle. Ce n'est pas vous qui allez vers la transformation, c'est la drogue qui vous transforme. Donc c'est ça aussi l'aspect problématique de la drogue. Stimuler, ce n'est pas de la résonance. On peut être stimulé, par exemple, par toutes sortes de formes de divertissement. L'industrie du divertissement essaie justement de vous envahir totalement, de vous bouleverser totalement et par le son, par la musique, de vous renverser. J'adore le rock, j'écris dessus, mais c'est différent d'être bouleversé comme ça par une expérience sensorielle et d'être en résonance avec quelque chose. Parce que quand on est dépassé, quand on est comme ça, submergé par l'expérience, on perd sa capacité à réagir. Et donc, on est dans un état passif. Donc, je pense que c'est vrai, l'intensité est là, c'est un état nécessaire. Et la résonance est une forme d'interaction intense avec le monde, mais toutes les intensités ne sont pas résonantes. Ce que je dirais, c'est que l'objectif de l'école, pour moi, ce n'est pas forcément le savoir au sens de quelque chose qu'on aurait, qu'on posséderait, qu'on ramènerait à la maison avec soi, qui signifierait, bon, bah, puisque je sais déjà, et bah, ça ne m'intéresse plus, c'est déjà devenu ennuyeux. La résonance, c'est quand on ne sait pas tout. Et quand on a le sentiment qu'il y a quelque chose à apprendre, quelque chose à gagner, quelque chose qui vous interpelle, qui vous appelle, ça revient à cette idée d'un attrait, de quelque chose qui vous appelle, qui vous attire, parce que vous ne l'avez pas. Mais bien sûr, acquérir des compétences et devenir de plus en plus capable d'obtenir ce qu'on cherche, peu importe que la quête soit celle des étoiles ou des poèmes ou de la nature, et faire en sorte que ces étoiles, ces poèmes, cette nature soit capable de vous parler. Je pense qu'on est le plus heureux dans les moments où on se rend compte « Oh, il y a quelque chose dans ce poème, dans les étoiles, qui est extrêmement attirant, mais que je n'ai pas encore. » Donc l'objectif de l'éducation pour moi, c'est d'ouvrir cet axe qui permet la rencontre au lieu de le refermer par des savoirs, des connaissances qu'on accumulerait et qu'on remporterait chez soi avec son diplôme.
Je rappelle que Pédagogie de la résonance est un ouvrage d'entretien avec Wolfgang Anders, qu'il est publié aux éditions du Pommier. Je remercie une nouvelle fois la Fondation Robert de Sorbonne pour son accueil et Marguerite Capelle pour la traduction.